France Inter. 10.
Mardi 19 mars, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, plus de 5 millions de fonctionnaires appelés à la grève.
Par tous les syndicats qui demandent une revalorisation des salaires alors que l'inflation galope. En Pologne, les centres de recrutement de l'armée font le plein. Des chaînes d'Île-de-France coupées illégalement pour alimenter le marché chinois. Et puis une technique de pointe pour traiter les cancers du foie, on vous explique la fluorescence.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, avec vous Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous, Rima Hassan, elle a 31 ans, elle est juriste, militante de la cause palestinienne, spécialiste de la question des réfugiés. La France Insoumise l'a placée en 7e position de sa liste aux européennes, dont elle devient la candidate la plus scrutée et la plus polémique, car on l'a accusée d'avoir cautionné l'attaque du Hamas.
A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien consacré ce matin au grand âge, avec Annie Vidal, Victor Castanet et Laurent Guillot. 9h20, Léa Salamé reçoit le musicien Mir Weiss.
France Inter.
Des infirmières aux enseignants, des agents des douanes, aux inspecteurs des impôts, les fonctionnaires dans la rue aujourd'hui. Tous les syndicats demandent une hausse des salaires de ceux qui font tourner le service public. Car s'ils ont été augmentés de 3,5% en 2022, de 1,5% en 2023, ce sera zéro pour 2024. Le ministre de la Fonction publique refuse de ressortir le carnet de chèques à l'heure où le gouvernement veut économiser 10 milliards d'euros cette année, le double l'année prochaine, alors que l'inflation elle n'a pas ralenti, Maxime Debs.
5 millions 700 000 agents et une demande qui les unit. Des perspectives d'évolution salariale dans un contexte inflationniste. Il faut rendre les carrières plus attractives et il y a urgence pour Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonction publique.
Quand on voit encore aujourd'hui le ministre des Armées qui signale les difficultés à fidéliser les militaires, on se dit que si rien n'est fait sur les rémunérations des agents publics, ça va devenir rapidement très compliqué. Parce qu'on a des difficultés à recruter à l'hôpital, à l'éducation nationale, à la police, maintenant à l'armée.
Entre les contraintes budgétaires que les syndicats disent comprendre et les réalités que ces mêmes syndicats décrivent.
La réalité, c'est des agents aujourd'hui dont 10% gagnent moins de 1500 euros par mois. C'est les ATSEM qui s'occupent des enfants dans les écoles maternelles. C'est beaucoup les agents d'entretien. Début de carrière au niveau du SMIC et à la fin de sa carrière, 500 euros d'écart par rapport à ce qu'on avait quand on a commencé. C'est ça la réalité aujourd'hui.
Avec, de l'autre côté de la grille, à peine 10% des agents à émarger à 3500 euros par mois ou plus, assure la CFDT, qui, comme les autres syndicats, réclame l'ouverture de vraies négociations immédiates avec le gouvernement.
Des rassemblements ont lieu dès ce matin devant les préfectures à Paris. Le cortège part en début d'après-midi du jardin du Luxembourg, garni, on l'a dit, de nombreux professeurs. À 11h ce matin, c'est une première. L'État est attaqué devant le tribunal administratif de Cergy par des parents d'élèves dont les enfants ont eu des années scolaires à trous car l'éducation nationale n'a pas remplacé les professeurs absents. Explication dans le journal de 8h. Et puis, le Premier ministre reçoit, lui, ce matin la FNSE à Matignon qui maintient la pression sur le gouvernement et ses engagements. Ça ne va pas assez vite, selon le principal syndicat agricole. Il n'y a aucune place pour l'antisémitisme en France. Emmanuel Macron, hier soir, a redit l'intransigeance de l'État devant les membres du CRIF reçus à l'Élysée. Le Conseil représentatif des institutions juives de France fête son 80e anniversaire sur fond de hausse impressionnante des actes antisémites en France et d'un contexte géopolitique marqué par la guerre à Gaza, Simon Le Baron.
La cause d'Israël dans cette guerre est juste, assure Yonatan Arfi, qui juge que l'État hébreu doit être traité comme l'Ukraine.
Nous devons, avec des modalités différentes, je le crois, la même solidarité et la même confiance à la démocratie israélienne.
Alors le président du CRIF critique certaines positions de la France en faveur d'un cessez-le-feu.
Je m'inquiète quand je vois poindre, parfois dans certains votes de notre pays, dans les instances internationales, parfois à l'ONU, la tentation non pas de critiquer, mais de juger Israël plus sévèrement que l'on juge d'autres démocraties.
Emmanuel Macron, lui, dit assumer des désaccords.
Défendre et aimer Israël, vouloir sa sécurité, ça n'est pas souscrire à tous les choix d'un gouvernement démocratique du moment.
Et le chef de l'État estime que l'universalisme exige, je le cite, que nous soyons fermes sur nos principes.
De condamner le terrorisme comme nous l'avons fait avec la plus grande des clartés et les violences sexuelles commises par le Hamas et d'appeler dans le même mouvement à protéger les civils aujourd'hui sous les bombes à Gaza et à dessiner un chemin pour la paix qui reconnaisse l'humanité dans le visage de l'autre.
Un rappel de la position officielle de la France après le soutien sans faille à Israël exprimé par son invité.
Le président du CRIF demande aussi une commission d'enquête parlementaire sur l'antisémitisme dans les universités. À ce sujet, Gabriel Attal s'était invité le 13 mars dernier au conseil d'administration de Sciences Po Paris après une mobilisation pro-palestinienne où certains disent avoir entendu des propos antisémites. Réponse très agacée des enseignants-chercheurs et des doyens de Sciences Po qui ont peu goûté les menaces de reprise en main. Il rappelle le principe cardinal de la liberté universitaire qui garantit le droit d'enseigner sous le contrôle des pairs, mais sans ingérence extérieure, y compris celle de l'État.
Il est 7h06 à Gaza, le numéro 3 du Hamas, tué dans une opération de l'armée israélienne.
La confirmation de la mort de Marwan Issa vient de la Maison Blanche cette nuit. Il a été tué la semaine dernière, plus haut gradé de l'organisation islamiste, tué en plus de 5 mois de guerre. Alors que plus d'un million de Gazaouis sont confrontés, selon l'ONU, à une situation de faim catastrophique. Des médecins urgentistes français de retour du territoire parlent de situation innommable, injustifiable dans les hôpitaux, obligés de soigner des blessés graves par terre. En Pologne, pays frontalier de l'Ukraine et aux portes de la guerre depuis 2 ans, l'hypothèse d'un conflit avec la Russie est prise très au sérieux. Certains commencent à se préparer, notamment en s'engageant dans l'armée. Martin Chabal.
Il y a du monde dans le couloir de ce centre de recrutement militaire, pas très loin du centre de Varsovie. À 39 ans, Sylvia travaille dans le milieu médical. Aujourd'hui, elle est venue s'engager dans les troupes territoriales polonaises.
Je serai appelée pour des exercices militaires le week-end. Je vais apprendre les bases, comme au service militaire, avec le maniement des armes, les fusils, la discipline, etc.
Pour encourager les Polonais à s'engager, la loi a été modifiée quelques semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine. Adam Wobodowski est le responsable du centre de recrutement.
La nouvelle loi a considérablement facilité le processus de recrutement. Aujourd'hui, on peut faire signer quelqu'un le jour même de sa réussite aux examens médicaux et psychologiques.
Et les chiffres augmentent au fur et à mesure que la menace russe grandit. Ils étaient 20 000 candidats juste après le début de la guerre en Ukraine, puis 30 000 l'an dernier et peut-être plus cette année encore. Grzegorz, lui, vient tout juste de s'engager et reste vigilant malgré son grand sourire.
J'espère que ce que je vais apprendre ici ne va me servir à rien. Mais je préfère être préparé. On ne sait jamais.
Grzegorz est convaincu que s'il veut la paix, il faut préparer la guerre. Martin Chabal, pour France Inter, à Varsovie.
Il est 7h08, des chênes centenaires exportées en toute illégalité vers la Chine.
Et oui, car le trafic de bois peut s'avérer juteux. La matière est très demandée au niveau mondial pour le bâtiment ou l'énergie et certains n'hésitent pas à aller se servir dans les forêts. Les gendarmes des Yvelines viennent d'interpeller 3 personnes soupçonnées d'avoir fait main basse sur toute une zone boisée près de Septeuil, à 60 km de Paris. Une zone estampillée espace boisé classé. Le préjudice est estimé à 160 000 euros, mais les dommages environnementaux sont irréversibles, Ariane Grissel.
Quand ils entament leur enquête, alertés par des associations environnementales, les gendarmes constatent d'emblée l'ampleur des dégâts.
Ça fait comme si une tempête s'était abattue sur cette parcelle forestière.
Le chef d'escadron, Gabriel Ducrest, commande la gendarmerie départementale de Mantes-la-Jolie, chargée de cette enquête.
La parcelle est jonchée de branchages, ça devient quasiment une prairie suite aux dégâts occasionnés.
Très vite, l'enquête oriente vers une société composée d'un couple et de son fils. Le père a déjà été condamné pour des faits similaires. Cette fois, les mis en cause sont soupçonnés d'avoir notamment menti sur leur demande d'autorisation et prétendu couper des arbres malades, d'avoir également coupé plus qu'autorisé ou d'avoir volé des arbres sur d'autres parcelles. Des chênes, parfois centenaires, ont ainsi été vendus à au moins une entreprise chinoise. Gabriel Ducrest.
Ce qui a pu être matérialisé grâce à la perquisition, c'est que les grumes, donc les troncs, étaient envoyés par camion jusqu'à un port néerlandais. De ce port, acheminés jusqu'en Chine pour la construction notamment de meubles. Voilà ce qui a été matérialisé notamment au travers de plusieurs factures pour un montant de vente totalisant les 100 000 euros.
Difficile de déterminer la surface précise de bois ainsi anéanti. Il faudrait pour cela passer la forêt au peigne fin et vérifier a posteriori chaque abattage.
Explication Ariane Grissel. C'est une première. L'armée va faire appel à EDF pour se fournir en matière irradiée pour ses armes nucléaires. Les 2 réacteurs de la centrale de Civaux vont être utilisés pour produire avec le CEA le gaz tritium. EDF va déposer un dossier à l'ASN la prochaine rentrée pour procéder aux premiers essais. EDF est épinglé par Greenpeace dans un rapport aujourd'hui sur les EPR. L'électricien accusé de sous-estimer systématiquement les coûts et les durées de construction. Selon les scénarios de Greenpeace, la facture des EPR estimée au départ à 51 milliards d'euros pourrait dépasser les 100 milliards, avec au final un mégawattheure entre 135 et 176 euros contre 70 pour la référence actuelle. Voilà maintenant un établissement unique en France, le centre hépato-biliaire de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, spécialisé dans les maladies du foie. Il fête ses 30 ans, le ministre est attendu sur place cet après-midi. Ces chirurgiens ont été les premiers à utiliser la technique de la fluorescence il y a une dizaine d'années pour les cancers du foie, avec de très bons résultats. Victor Dolande, spécialiste santé de France Inter, a pu pousser les portes du bloc opératoire.
Lors de l'échographie, il est impossible pour les médecins de repérer les zones cancéreuses à la surface du foie de cette patiente. C'est là que la fluorescence se révèle très utile.
C'est vraiment un examen qui est un examen supplémentaire d'exploration du foie pendant l'opération.
Entouré de 4 infirmiers au bloc opératoire, Éric Vibert, chirurgien hépatique.
Le cancer du foie est un tissu qui a des capacités à pouvoir capter le produit en question, mais il n'a pas les capacités à pouvoir l'excréter.
14 minutes.
Donc en fait, en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on injecte un produit colorant la veille de l'opération. Ça s'élimine partout dans le foie, sauf à l'endroit où il y a une tumeur.
La tumeur se situe donc là où le produit fluorescent est concentré. Le chirurgien va ensuite pouvoir réaliser l'hépatectomie, c'est-à-dire l'ablation d'une partie du foie, avec beaucoup plus de précision.
Chez cette malade, par exemple, je sais que c'est une tumeur qui est bien différenciée, donc je n'ai pas besoin de faire une très grosse hépatectomie, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'elle est âgée, et donc ça ne serait pas anodin de chez elle de faire une grosse hépatectomie.
À Paul Brousse, les médecins misent beaucoup sur cette technique de la fluorescence. Ils s'en servent aussi pour les transplantations du foie.
Reportage à retrouver sur franceinter.fr. Enfin, nos enfants sont-ils derrière le poste? Les jeunes s'informent-ils en écoutant la radio? Pas sûr, tant la vidéo paraît être le média favori des plus jeunes. À Bourganeuf, dans la Creuse, des enseignants ont lancé un atelier radio dans un collège pour sensibiliser leurs élèves à l'information. Et ça marche, Julien Baldacchino?
Quand on demande à Ryan et Giovanni, élèves en 5e et en 3e, comment ils s'informent, c'est toujours la même réponse qui arrive en premier.
Là où je vais le plus, c'est Insta et TikTok, pour regarder des vidéos.
Sur TikTok, je regarde et quand je vois un truc, soit je regarde sur Internet, sur Google, si c'est un truc pas intéressant, je swipe. Et si c'est un truc intéressant, j'essaie de me renseigner pour savoir un petit peu plus.
D'après une étude sortie la semaine dernière, les plus jeunes utilisateurs passent près de 4 heures par semaine sur TikTok. Pourtant, juste derrière la porte du CDI, c'est la radio qu'une vingtaine de collégiens découvrent chaque semaine, encadrée par leur prof Aude Choplet.
On a vu qu'en fait, ça prenait beaucoup plus facilement que la vidéo qu'on avait essayé aussi avec eux, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus spontané dans leur manière d'aborder les sujets.
Résultat, les pratiques des élèves de l'atelier, comme Augustin, élève en 3e, ont un peu changé.
Je me réveille avec les infos, puis je descends, je prends mon petit déjeuner pendant les infos. Quand je rentre chez moi, quand on mange, on écoute la radio.
Pour la documentaliste Raïssa Thiro, l'évolution des élèves est aussi visible.
Aujourd'hui, très peu d'élèves s'informent et en fait, en les faisant vraiment participer, en les rendant acteurs de l'information, ça leur permet vraiment de prendre conscience finalement de l'intérêt de, par exemple, vérifier les informations.
L'an prochain, une option radio sera lancée avec une classe à horaires aménagés.
Reportage au collège Jean-Picard Ledoux à Bourganeuf, dans la Creuse, où France Inter pose ses valises aujourd'hui à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. Rendez-vous tout à l'heure pour un 13-14 spécial.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom. Aujourd'hui en Allemagne, où les brasseurs sont à la peine.